Entretien avec Nicolas Hulot à l'occasion de la COPVAL 2019. David Mercier et Béatrice Kevorkian, élèves du lycée français de Valence.
Allez, on est parti.
Comment est née chez vous la conscience de la chance que vous avez de vivre sur cette planète?
Elle est venue très progressivement. Dans un premier temps, comme beaucoup de personnes, je ne me rendais pas compte qu'on avait une planète si petite, si belle et si fragile. Et quand j'ai pris conscience qu'on vivait sur une toute petite planète, que c'était le seul endroit où la vie existait, et que ce qu'elle avait produit pendant 4 milliards et demi d'années était surtout marqué par le sceau de la beauté, parce que la nature est belle, là je me suis rendu compte qu'on était des chanceux.
Et vos enfants ont la même opinion que vous?
Malheureusement, non. Mais c'est pas très grave, parce que je pense que dans la vie, il faut une petite période d'insouciance et la conscience vient après.
Qu'est-ce que vous pensez à propos du mouvement Fridays for Future?
Je pense que si on ne veut pas que nos enfants nous détestent, il est important que les enfants nous mettent devant nos responsabilités, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Et donc, comme c'est vous qui allez recevoir les conséquences positives ou négatives, c'est très important, parce qu'aucun parent ne peut rester insensible à une interpellation de ses enfants. Et comme le reste n'a pas bien marché, je me dis que c'est peut-être la dernière chose qu'il faut essayer.
Est-ce que vous pensez que l'école, justement, pourrait aider à cette coopération entre les deux groupes?
L'école est un moment particulier, parce que ce sont des sujets complexes, et dans l'école, on a quand même du temps pour approfondir. Si le citoyen, dès l'école, n'a pas conscience que ça n'est pas un petit sujet, mais que c'est le grand sujet, comme disaient les autres, l'affaire du siècle, à un moment ou à un autre, il ne va pas comprendre pourquoi les politiques vont leur proposer de changer des choses en profondeur. Donc il faut impérativement qu'il y ait une synchronisation, que tout le monde ait les mêmes paramètres.
Si nous avons bien compris, l'important, c'est surtout l'action.
Ouais. Et mais l'action à grande échelle, pas à petite échelle. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses en grand. Il faut changer les normes. Et l'action avec des moyens. Parce que c'est tout un modèle qu'il faut changer.
Et justement, quels moyens vous envisagez?
Alors, d'abord, il y a les outils, puis après, il y a les moyens. Parce que les outils, par exemple, pour changer de modèle énergétique, il faut aller à fond dans les énergies renouvelables et à fond dans tous les outils pour stocker les énergies renouvelables. Il faut changer totalement le modèle agricole. Il faut totalement changer le modèle de transport. Alors ça, c'est les objectifs. Où on va chercher l'argent? C'est là que tout revient à l'argent. On va chercher l'argent là où il est. Et il n'est pas dans les États. L'argent, il est dans une partie de l'économie dans le monde qui s'est organisée pour être en circuit fermé et pour ne pas payer d'impôts. Donc c'est là qu'il faut qu'il y ait une volonté de tous les États, notamment européens, pour aller chercher cet argent-là et l'utiliser pour amorcer la transition écologique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut changer le modèle fiscal. Vous savez qu'en Europe, vous avez des grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas d'impôts, ou très peu d'impôts. Et bien, ça n'est pas compatible, compte tenu des impératifs, on a besoin d'argent. Ce n'est pas dans les petites entreprises, ce n'est pas dans les classes moyennes, ce n'est pas chez les populations les plus démunies qu'on va aller chercher de l'argent.
Vous parlez des mesures fiscales. Lorsque vous avez rédigé le pacte écologique et social avec Laurent Berger, vous avez présenté des propositions très intéressantes. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous préciser, quelles sont les mesures fiscales endommageables pour l'environnement et à la préservation du patrimoine naturel?
Effectivement, on peut spéculer sur des matières premières et des ressources alimentaires, gagner beaucoup d'argent, parce que derrière un ordinateur, on va acheter des ressources alimentaires, on va les stocker dans un coin, on va créer la rareté, et donc on va faire monter le prix, et avec ça, on va gagner beaucoup d'argent, et qu'en plus, ça n'est pas taxé. Voilà des choses qui sont totalement préjudiciables à l'environnement. Mais ce qu'il faut surtout, c'est maintenant trouver des nouveaux instruments de recettes avec de la fiscalité incitative et de la fiscalité dissuasive. Imaginez qu'en Europe, on ait une TVA qui soit proportionnelle à l'impact environnemental des produits ou des services que vous achetez.
Également dans le pacte, vous évoquez aussi le Conseil économique, social et environnemental. Et est-ce que vous pourriez définir un peu mieux quelle serait l'action
de... En fait, ça part d'une réflexion. C'est que quand vous observez comment, dans les démocraties, le pouvoir s'exerce, vous apercevez que les responsables politiques sont toujours dans l'urgence. Parce que le monde va très vite, excessivement vite. Donc, il n'y a pas de temps de réflexion. Il y a des temps de réaction. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on ait une troisième chambre où on mêle des scientifiques, des citoyens tirés au sort, les corps intermédiaires, les ONG. Et là, on ne s'occupe pas du présent. On s'occupe que de l'avenir.
Et en Asie, que pensez-vous d'un pays comme le Bhoutan qui a adopté un code de respect de la forêt dans sa constitution?
Nous, on a le produit intérieur brut, qui est un indicateur de la bonne santé de leur économie. Si je ne me trompe pas, le Bhoutan, ils ont le bonheur intérieur brut. Bon. Donc, ils ont d'autres indicateurs. Et je pense que ça devrait inspirer les autres pays pour changer leurs indicateurs. Parce que l'indicateur de bonne santé d'un pays, il est lié simplement à la production de richesses, mais pas du tout au bien-être. Et il ne prend pas du tout en compte ce qu'on appelle en économie les externalités négatives, c'est-à-dire les conséquences sur la santé, sur l'environnement, qu'on va toujours avoir à payer.
Et pensez-vous que nous puissions obtenir, par la raison, le sauvetage de la planète, c'est-à-dire nous utilisons à présent la pédagogie rationnelle, nous montrons des statistiques et bien évidemment ça fait un effet. Mais est-ce que peut-être nous pourrions aussi utiliser une pédagogie qui utilise plutôt les émotions?
Alors, il faut jouer également sur l'émotionnel parce que les scientifiques, ils ont fait leur boulot. Maintenant, il faut jouer sur la corde émotionnelle. Parce qu'une fois qu'on aura utilisé le rationnel et l'émotionnel, après, il ne faudra pas s'étonner si ça change de registre. Et le registre d'après, lui, il risque d'être plus violent.
On a cherché, il y avait un mouvement qui a maintenant émergé, qui est un challenge. Des jeunes photographient des
décharges. Ouais, j'ai vu.
Et qu'est-ce que vous pensez?
Mais moi, j'encourage tout ça, c'est ce que je voulais vous dire. Inventer, il faut tout essayer. Tout essayer parce que la situation l'exige. Donc il faut essayer l'artistique, il faut essayer le côté exemplaire des choses, parce qu'en faisant ça, ça crée une espèce de compétition. Et voilà. Donc je pense qu'il faut faire feu de tout bois.
Nous vous remercions vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui.
Et c'est moi qui vous remercie. Bravo.